Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RDWA, à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Bienvenue donc dans d'Histoires et de Contes, premier numéro de la rentrée. Donc premier numéro avec un homme que l'on connaît tout particulièrement à RDWA, puisque régulièrement il est convié à partager avec nous certaines de ses connaissances, notamment en matière d'éthologie. Cependant, c'est à l'auteur de nouvelles que je fais encore une fois appel. Je vous demande donc d'accueillir Jean-Claude Rouchouze et trois de ses derniers écrits. Moi, je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve tout à l'heure à la fin de l'émission.
Sans souci. Je marche tranquillement sur la route promenant mon petit chien, Titi. Je l'observe. Son manège est curieux. Le long d'un muret, il part sur sa gauche, revient à droite, repart à gauche, plusieurs fois de suite, tourne en rond, se stabilise en écartant les pattes arrière et dépose sa crotte. Je me dis, pourquoi tant de complications ? Tourner en rond évoque le fait d'aplanir des herbes. Mais il n'y a pas d'herbe. Et pourquoi toutes ces allées et venues ? Écarter les pattes lui évite un déséquilibre. L'homme d'ailleurs, quand il s'accroupit, fait de même. Je pense aussi à l'éthologie. Quand certaines coordinations héréditaires débutent, avec leur enchaînement moteur, elles se poursuivent inéluctablement. Conrad Lorenz parle du mouvement de l'oie grise pour amener son œuf dans son nid en posant son bec dessus. Si vous lui enlevez l'œuf, quand elle a commencé le mouvement, elle le poursuit, alors que l'œuf est sur le côté, ce qui paraît stupide à l'observateur. Je pense aussi au chat qui dépose ses excréments sur un sol carrelé et gratte autour pour l'enfouir. Il y a de l'inertie dans les instincts. Carl Gustav Jung le disait déjà. Les instincts sont conservateurs à l'extrême, aussi bien dans leur dynamique que dans leur forme. Perdu dans mes réflexions, je vois une voiture bleue stopper brusquement à 5 mètres de moi. Deux hommes en complet veston en sortent. Ils se précipitent sur moi, m'empoignent par les avant-bras. Un troisième ouvre la porte arrière. Il me balance sur le siège en se plaçant à ma gauche et à ma droite. La voiture démarre en trombe. « Ça y est, Nick !» disent les deux inconnus. « On le tient !»« Bravo !» Brick et Rick, dit Nick. « Félicitations ! Opération réussie, les gars !» Je m'écrie, mais qu'est-ce qui vous prend ? Mais qui êtes-vous ? Et mon petit chien ? Je me retourne, je vois Titi s'éloigner à grande vitesse. Mais arrêtez-vous ! Mon chien est tout seul sur le trottoir. Arrêtez, arrêtez ! Tais-toi, pauvre con, dit Nick. Brick et Rick, montrez-lui votre carte. Ils me fourrent leur carte sous le nez. Je distingue vaguement des tampons et des mots comme national, police, préfecture... Service spécial. Les cartes disparaissent prestement dans les vestons. Me toisant de haut, Brick et Rick m'interpellent. Tu t'appelles bien ? Ils disent mon nom. Ton prénom est ? Ils disent mon prénom. Tu mesures ? Ils disent ma taille. Tu pèses ? Ils disent mon poids. Tu as les yeux verts ? C'est vrai. Tu aimes les palais bretons ? Mais comment savent-ils cela ? Tu portes trois types de pantalons blancs. Je suis sidéré. Il y a deux jours, à 14h15, pendant 6 minutes 3 secondes, tu as contacté une organisation écologique. C'est vrai. Je les avais appelés pour leur signaler qu'une buse était emprisonnée dans un grillage et qu'il fallait venir la délivrer. C'est vrai ou c'est faux, dit Brick. Je réponds, c'est vrai. Mais comment vous savez tout cela ? Et où vous m'emmenez ? Et pourquoi vous m'emmenez ? Tais-toi, dit Nick, c'est pas à toi de parler. Et d'abord, tu as une tête de rhum. N'est-ce pas, Brick, il a une tête de rhum ? Brick approuve. Mais je ne peux pas avoir une tête de rhum, je n'ai pas bu une goutte. Je vous jure, je ne bois que de la bière sans alcool et de l'eau fraîche des sources du Raïs. Pauvre con, dit Nick. Ça semble être son expression préférée. Je n'ai pas dit rhum, R-H-U-M, mais rhum, R-O-M. Mais Je ne peux pas non plus avoir une tête de Rome. Ma mère était du Oise et mon père auvergnat. Eh bien, dit Nick, nous, on trouve que tu as une tête de Rome. N'est-ce pas qu'il a une tête de Rome ? Brick et Nick acquiescent. Oui, chef, disent-ils. Je réponds, je vous jure que je ne peux pas avoir une tête de Rome, mais j'aime la musique tzigane et la musique klezmer. Rick dit, chef, je vous l'avais bien dit qu'il avait l'air suspect. Celui-là, on va se le faire. La voiture freine brusquement. Nous arrivons dans une arrière-cour grisâtre. Il m'empoigne par l'encolure de mon vieux pull, me traîne dans un couloir. Je vois défiler plusieurs portes, 1180, 1190, 1200, 1210. Ils ouvrent l'une d'elles, me font asseoir, manu militari, sur un tabouret. Tous les trois s'installent sur trois chaises confortables, derrière une table massive, sur laquelle il y a un micro qu'ils dirigent vers moi. Puis ils sortent un calepin et taillent consciencieusement leur crayon en agent zélé de l'État. Ils me font penser aux pieds nickelés, ribouledingue, filochard et croquignole. Mais les pieds nickelés en complet veston, ça ne colle pas. Pour la première fois, je me mets à les dévisager. Nick est le plus petit. Sa jambe de pantalon est un peu relevée, fait voir de gros mollets. Des cheveux bruns, ondulés, parsemés de cheveux blancs, les tempes un peu dégarnies, un front à liseré haut, en forme de M, les oreilles légèrement décalées, surtout la gauche, et sans lobe. Les sourcils sont bien arqués, le droit se relevant plus facilement que le gauche, le nez aquilin, les yeux marrons et petits, costume bleu, cravate bleue, chemise à rayures bleues. La main droite se lève souvent, index pointé vers vous ou vers le haut. Soit une habitude de chef, se croyant un super chef, soit un monsieur je sais tout. Brick est le plus grand. Costume bleu, cravate bleue, chemise à rayures bleues, front dégarni avec des cheveux rares à la couleur indéfinissable, d'un blond roux, un teint rougeau contrastant avec de pâles sourcils, de petits yeux à fente étroite et pupilles rétrécies, des plis sous le cou. Il croise souvent les bras comme pour se rassurer. Rick est le plus discret, une sorte de passe-partout, peu causeur, le regard bleu et froid d'un homme de dossier. Costume bleu, cravate bleue, chemise à rayures bleues. Nick parle. À 15h31 le 16 mars, tu as contacté l'horloge parlante. On t'a géolocalisé, tu étais au bord de la voie ferrée Valence-Cap, c'est suspect. À 18h15, tu as à nouveau contacté l'horloge parlante. Tu étais toujours au bord de la voie ferrée, c'est doublement suspect. Écologiste au bord d'une voie ferrée pendant plus de 2 heures, tu es un présumé coupable, dit Nick. N'oublie pas que nous savons tout sur toi. Alors là, excédé, je me révolte. C'est faux, dis-je. Vous ne savez pas tout sur moi. Quand je mange un radis, je le coupe d'abord en 8 tranches avant de le consommer. Cela, vous ne le savez pas. Stupéfait qu'on lui réplique. Nick relève ses 2 sourcils. Rick dit, alors, on fait la forte tête. Réponds à notre question. Que faisais-tu pendant 2 heures au bord de la voie ferrée ? Je réponds, je dessinais le village de Pontet. Il faut plus de 2 heures. Et le meilleur point de vue, on l'a si on se place au-dessus de la voie ferrée. Tous les trois me regardent, interloqués, comme si j'étais un extraterrestre. Le silence est interrompu par la sonnerie du portable de Brick. Il écoute et prend un air soucieux. Nick, c'est Jupe. Il dit qu'on a vérifié. C'est qu'un écolo inoffensif. Il dessine bien Pontet et il coupe bien ses radis en 8 avant de les consommer. Ah merde, dit Nick, on s'est planté. Il m'empoigne par le col, me traîne dans le couloir, me jette dans une ruelle obscure. Je relève la tête. Sur un panneau, je vois marqué « Impasse, sans souci ». Des soucis, je n'en ai plus, sauf celui de retrouver mon petit chien. Post-scriptum. Maintenant, je coupe mes radis en 6 tranches au lieu de 8 avant de les consommer pour sauvegarder ma liberté.
D'où elle te vient ?
Je sais pas. Alors c'est vrai que j'ai dessiné Pontet au-dessus de la voie ferrée. Alors,
j'en étais sûr.
Ça c'est vrai. Et alors bien entendu, Brick, Rick et Nick. Nick c'est Nicolas Sarkozy. Brick c'est Brice Hortefeux. Et Rick c'est Éric Besson. Donc, et la description
est très pointilleuse. Elle correspond.
Ouais, ouais.
Donc, tu as eu le sentiment peut-être d'être prise en otage politiquement à un moment ?
Bah, non, j'ai inventé. Non, mais par contre, c'est un petit peu inspiré quand même, tu sais, de l'histoire des au fond des écolos qui se sont fait arrêter à tort, plus ou moins soupçonnés d'avoir coupé des fils sur une. Tu sais, on en a parlé pendant longtemps.
Effectivement, ouais.
J'y étais pour rien. Voilà, inspiré comme ça.
D'accord.
Plus le truc des Roms, c'est l'astuce avec Rome et RHUM. Moi, non, j'ai pas vu, j'ai rien vu, moi.
J'adore cette naïveté, j'adore.
Je bois que de l'eau des sources du Raïs.
Super. Merci en tout cas pour cette première nouvelle.
Voilà. Comme la nuit est noire. Il est arrivé à 7 heures. Dans sa vieille voiture, il a fini par repérer le long du mur du grand cimetière des faubourgs de Valence. Et il a suivi le panneau indiquant « crématorium ». Il se gare sur un parking désert. Les portes sont encore closes. Le crématorium n'ouvre qu'à 7h30. Sa mère est morte il y a 3 jours. La femme de ménage l'a trouvée le matin dans sa cuisine, recroquevillée sur le carrelage aux petits carreaux blancs et noirs. Veuve depuis 10 ans, elle vivait seule dans un 2 pièces au 4e étage, au milieu des souvenirs d'une jeunesse moscovite dorée et lointaine, d'avant la révolution de 1917, d'avant l'exil. Il n'y avait pas d'ascenseur, et une fois tous les 3 jours, elle gravissait péniblement les marches en bois ciré avec le peu d'aliments que ses maigres ressources lui permettaient. Sa mère, il ne la voit plus depuis 30 ans. Il s'était fâché avec son père pour des broutilles, et il était parti au loin à l'étranger, passant de port en port, de bateau en bateau, d'errance en errance, cuisinier dans la marine marchande. De retour dans son studio de Marseille, il a trouvé un mot dans la boîte aux lettres. Mère décédée, joint de la société X et le commissariat Y. Il a téléphoné. On lui a appris que l'on avait trouvé un mot griffonné sur un papier froissé d'un petit meuble de chevet. « Je veux être incinéré. Voici la dernière adresse de mon fils unique que je connaisse. » Il a contacté la société X, puis accompagné de quelques agents de cette société, a assisté à la mise en bière d'une personne qui lui était devenue étrangère. Maintenant, il est devant la porte du crématorium. À 7h30, il entre. C'est une petite pièce chauffée, peinte en blanc, avec quelques rares sièges. Il est seul. Un homme en noir lui explique ce qu'il va se passer d'une voix basse et monocorde, difficilement audible. Le cercueil est en sapin, aux écrous métalliques, et est là devant lui, anonyme. Il lui semble très petit. Il se dit que sa mère était bien petite. L'homme lui explique. « Vous pouvez dire adieu à votre mère par un mot, par un geste. » Il ne sait que faire. Il pose l'index de sa main gauche sur le cercueil, l'esprit vide. L'homme en noir pousse le cercueil, qui est sur un support à roulettes, dans une autre pièce. Des portes se ferment, il y a une télévision dans la pièce. Sur l'écran, il voit le cercueil pénétrer dans un four en forme de tube. Tout se met à rougeoyer, il ne voit plus qu'un brasier. Il s'imagine voir la peau de sa mère se racornir, ses blancs cheveux s'enflammer, les organes devenir comme un cirage noir et craquelé, Un moment, il lui semble voir la colonne vertébrale s'arc-bouter dans un dernier sursaut de vie, puis tout n'être plus que cendre. Il frissonne, émerge de son songe et quitte la pièce. Brusquement, s'asseyant dans sa voiture, il se sent très seul sur ce parking toujours désert. Le lendemain, il revient à 8 heures au même endroit. Il entre dans la petite salle austère du crématorium. Le seul bouquet de fleurs qui l'ornementait n'est plus là. Le même homme en noir lui remet une petite boîte en carton qui, paraît-il, contient les cendres de sa mère. Il pense « Elle était vraiment toute petite ». Il sort, retrouve le parking et sa vieille Renault 4. À côté, il y a une décharge avec des tas de pavés, des pneus, des gravats, des sacs plastiques et des rouleaux détériorés de gazon industriel. Il ouvre l'urne en carton, déverse les cendres étonnamment claires et légères de sa mère entre deux pavés, les dissimule par l'un des sacs en plastique déchiré. Il pense « C'est comme si elle n'avait jamais existé ». Il pense aussi « Comme la nuit est noire ».
Tu veux nous en parler un petit peu, Jean-Claude?
C'est quand même inspiré du fait que j'ai assisté à une incinération. Et puis de là est partie cette idée de fils qui a perdu sa mère, qui ne connaît plus sa mère, qui s'est fâché. Voilà. Ce qui peut être une histoire vraie.
Une réalité.
Bon, bien sûr, là, c'est imaginaire, je ne connais pas cette situation-là, je l'ai inventée, mais je pense qu'elle peut être réelle.
Elle est totalement plausible en tout cas.
Elle est plausible et puis le crématorium de Valence, c'est cela, c'est une petite pièce.
Pour une fois tu changes de registre, là tu vas dans quelque chose de plus sombre en fait, tu te risques à cet exercice.
Oui, j'ai quelques... peu de nouvelles qui sont tristes, il y en a deux sur une trentaine. Hein. Donc, il y a de tout dans la vie. Hein. Il y a aussi, il y a l'absurde, il y a le comique, il y a l'amour, il y a la mort, il y a la maladie, il y a aussi la nature, la beauté, tout y est. Donc, quand on écrit des nouvelles, en fait, c'est aussi intéressant de balayer tout ce qui peut arriver.
Ouais.
J'ai aussi une nouvelle qui s'appelle La guerre, par exemple. Ouais.
Qu'on aura bientôt l'occasion d'entendre.
L'histoire qui ne peut avoir eu lieu. L'histoire qui ne peut avoir eu lieu. Elle marche avec élégance sur le chemin de la forêt Giono de Châtillon en Diois. Son fond de teint est lumière céleste numéro 18. Pour ses sourcils, elle se passe crayon sourcil noir d'abysse. Pour ses lèvres, elle utilise un tube de rouge numéro 6, framboise des nouvelles hébrides. Pour se haler, elle se tamponne de poudre, bronze de Chine. Son parfum est Perfecta Sweet Mother de chez Chic du Faubourg. Son chemisier de flanelle blanche de coton cardé est bordé de dentelle du puits en velay. Son jean peau de léopard porte la marque Palto Cabane de Paris, Montsouris. Ses chaussures à talons crantés viennent de l'atelier artisanal de Romans aux moines chausseurs et sont en cuir de bison du Vercors, certifié bio. Il marche à ses côtés. Il porte un panama blanc, technosure à ventilateur interne fonctionnant sur pellicule solaire. Un parka de cuir de chez Buffalo de New York, en port Napa pleine fleur, cuir ultra souple, belle découpe, écouture surpiquée, doublure raffinée réchauffée de laine, avec une impression pied de coq sur le haut du dos. Sa chemise blanc nacré, style Mao, en coton bio, se devine sous son pull jacquard aux lumineux camailleux d'ocre écru, brun, camel et bleu. Sa ceinture est en cuir haut de gamme, bison d'Auvergne. Elle soutient un jean zébré de marque Palto Cabane numéro 2 de Paris, Montsouris, bien mis en valeur sur la fesse gauche. Ses chaussures penny loafer, grand large, en cuir de vachette verni à talons de gomme compensés, lui donnent une allure sportive et déterminée. Elle se penche et ramasse une orchidée. C'est l'orchis bouc, Himantoglossum hirsutum. Sa tige est verte à section ronde, ses feuilles sont oblongues, ses fleurs en long épi ont un casque gris-pourpré, un label blanc trilobé ponctué de rubans rouges. Les ailes blanches ont des filets rouges, les fruits sont des capsules à trois divisions. Lui aussi se penche et cueille délicatement un champignon, un tricholum de la Saint-Georges, le Callosype gambosa. Son chapeau est convexe, puis plan, chamois pâle, crevassé, à marche très enroulée. Ses lamelles sont serrées, émarginées, sinuées de couleur crème. Son pied est court, épais, cylindrique, plein, compact et blanc. Sa chair blanche et serrée a une odeur de farine fraîche. Il lui dit d'un air entendu « C'est un bon comestible !» Elle lui répond « Et alors, n'aurait-il rien d'autre à offrir ?» Elle lui glisse sous le nez l'épipactis à odeur de bouc. Mais l'odeur est si épouvantable qu'il fait un bond en arrière, il trébuche en se prenant le pied dans une racine de pin, s'accroche à elle, la déséquilibre, et les voilà tous deux qui s'appalent de concert dans la bouche boueuse du sanglier, le grand sanglier, le numéro 12, solitaire, de ses trèches sucriers. Comment ? Que me dites-vous ? Que les sangliers n'ont pas de numéro ? Que ce sont des sauvages, des nuisibles, qui ne portent jamais de collier pour les géolocaliser, comme les lynx du Jura ? Oui, 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 vous avez raison. Mais vous avez oublié. Je vous l'avais bien dit au début. Cette histoire ne peut avoir eu lieu.
Un grand merci Jean-Claude pour ta générosité. D'autres auteurs à venir cette année dans l'histoire et de contes, 3 sont déjà prévus, donc j'aurai l'honneur de bientôt accueillir Fabien Lacaf, Christophe Mercier et Yann Desgruel pour la BD. Voilà, on élargit un petit peu le champ d'action dans l'histoire et de contes. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur internet, vous retrouverez tous les podcasts d'histoire et de contes sur le site www.rdwa.fr dans la rubrique espace histoire et contes. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt dans l'histoire et de contes. Bye bye. Won't you tell me who is she?